Nouveau regard, une émission d'éducation et de formation à la citoyenneté responsable. Une production d'APEDS Togo et de ses radios partenaires.
Chers fidèles auditeurs et auditrices, c'est une grande joie pour moi de vous savoir nombreux à l'écoute de votre radio et spécialement pour suivre cette émission Nouveau Regard. Je pense que tout le monde se porte très bien par la grâce divine. Aujourd'hui encore, nous avons M. Seth Mathilde Clouvier pour nous conduire dans cette émission. Et là, dans nos précédentes émissions, nous avons vu le concept de l'état compétent, le leadership. Et là, on a constaté que nous n'avons pas vraiment des leaders compétents pour avoir un état compétent. Et donc aujourd'hui, si je vais jouer sur les mots, et peut-on avoir les caractéristiques du type de leadership qu'il faut pour nos états, enfin qu'ils soient compétents, c'est ma préoccupation. Et donc aujourd'hui, M. Seth Mathilde Clouvier va essayer de nous donner ces caractéristiques. Vous et moi, nous allons prendre note pour pouvoir peut-être les enseigner et dans nos différents lieux pour que l'on comprenne vraiment le leadership. Et qu'est-ce qu'il faut pour que nos états soient vraiment compétents? Monsieur Seth Mathilde et Clouvia, bienvenue dans cette émission.
Nouveau regard pour une citoyenneté responsable.
Merci. Comment tu vas?
Je me porte très bien par la grâce divine.
J'espère que nos auditeurs également se portent bien. Tous ceux qui nous écoutent, je rends grâce pour leur vie et je les invite à se mettre encore plus attentivement à l'écoute, parce que nous allons parler de quelque chose qui nous concerne tous, pas seulement ceux que nous voyons là-haut comme leaders, mais que chacun de nous se sente concerné.
Oui, monsieur, c'était la dernière fois que vous avez dit que l'Afrique a des potentialités pour devenir un continent émergent capable de jouer dans la cour des grands. Et vous avez énuméré au moins 4 points. Le dernier point, cultiver les silences et le professionnalisme. Et aujourd'hui, on aimerait voir les caractéristiques du type de leadership qu'il faut pour nos états afin qu'ils soient compétents.
Oui. La notion de compétence, la notion dépend en fait de deux choses qui transparaissent dans la dernière phrase que tu viens de mentionner, enfin dans le dernier point sur lequel nous nous sommes arrêtés la dernière fois. Il s'agit de l'excellence et du professionnalisme. Cultiver l'excellence et le professionnalisme. Cultiver, c'est que l'on a la volonté de faire la chose. Donc on ne naît pas avec ça. Et même l'école ne vous donne pas nécessairement tout ce qu'il faut pour être excellent et pour être professionnel. Et tout le monde a besoin d'être excellent dans ce qu'il fait et d'être professionnel. En tout cas, parce que quand tu agis, tu n'agis pas pour toi, mais tu agis d'abord envers les autres. Toutes tes actions que tu mènes ou que tu mènes ça affecte les gens qui sont autour de toi, les gens qui sont en quelque sorte consommateurs des résultats de ton action. Donc tout ce que tu fais est consommé par les gens autour de toi. Si tu fais mal, ça veut dire que tu leur donnes de mauvais produits à consommer, donc tu deviens nuisible pour la société. Mais pour éviter d'être nuisible à la société, pour être utile à la société attend de chacun de nous qu'il fournisse le meilleur de lui-même pour que le résultat ou le fruit de ses actions soit des fruits qui permettent à ceux qui consomment ces fruits-là de grandir, d'être en paix, d'être serein dans ce qu'ils font. Mais si vos actions provoquent l'incertitude et l'inquiétude, alors il serait difficile que les gens acceptent faire ta compagnie. Et en ce moment-là, on ne peut pas dire que tu es un leader. Or, le leader doit faire quoi? Rassembler autant que possible autour de lui. Non pas rassembler dans le sens de créer un groupuscule par clientélisme, en s'apitoyant sur sa personne. Et on l'a déjà vu que c'est certains des maux qui rongent l'Afrique, c'est que nous avons des leaders qui constituent des îlots d'adorateurs autour d'eux par clientélisme et qui les poussent à un repli identitaire, un repli sur l'identité culturelle, l'identité ethnique, l'identité régionaliste, l'identité, etc. Donc on invente toutes sortes d'identités. Et en Afrique, c'est très commun de dire à tel leader, c'est notre fils, c'est notre cousin. Ou, d'ailleurs, c'est le mot fils ou fille qu'on utilise le plus. Et alors, les gens sont poussés, obligés de le protéger, même s'ils savent que ce fils-là dont il s'agit n'est pas bon, que ses actions sont nocives pour la société, qu'il n'arrive pas à délivrer de bons produits pour la société dans son ensemble en tant que leader. Donc, nous disons que ce qu'il faut pour nos sociétés, et on l'a vu, le mot pour ce que l'ancien président ghanéen Kwame Nkrumah avait dit, le type de citoyen qu'il faut pour l'Afrique. Et il a décrit pratiquement les caractères du citoyen qu'il faut pour l'Afrique. Et si réellement chaque citoyen développait ces caractères-là, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir de bonnes relations entre Africains, donc des relations dans lesquelles la perfidie n'aura pas de place, alors qu'aujourd'hui, à cause de l'échec dans la construction de ce citoyen, après 60 ans d'indépendance, nos relations sont infectes de perfidie. La perfidie, c'est quand tu vois un être de ton milieu, un concitoyen, et la première question que tu te poses là-dessus, c'est est-ce que je peux avoir confiance en celui-là? Donc déjà, tu classes la personne parce que peut-être toi-même, tu n'es pas digne de confiance. Et lui non plus. Alors tu te poses la question, tout ce qu'il dit là, est-ce que vraiment il peut dire des choses sensées? Même s'il dit des choses sensées, tu vas en douter et commencer à le juger. Pas pour voir d'où est-il en fait. Donc tu cherches à connaître l'origine ethnique, l'origine régionaliste, enfin l'origine identitaire, culturelle, pour dire les gens-là, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de ces gens? Est-ce que ces gens-là disent la vérité? Et nous avons des étiquettes collées à nos concitoyens en fonction du milieu dont ils proviennent. Et ça, c'est dangereux. Et cela, c'est dans toute l'Afrique, malheureusement. Donc, si l'Afrique peine à se développer, c'est parce que cet esprit-là, qui n'est pas un esprit excellent, est un esprit discriminateur, nous amène à rabaisser et à dévaluer les valeurs que nous avons. Donc, quand tu commences à voir quelqu'un sous cette forme-là, en fait, tu n'es pas en train de voir la valeur de la personne, mais tu juges la personne. Est-ce que quelque chose de bon peut venir de tel milieu, de telle ethnie, de tel, etc., etc. Donc, nous n'allons pas rester sur ce constat d'échec. Parce que c'est un constat d'échec pour toute l'Afrique. Le Togo n'y échappe pas. Et c'est ce qui fait que il y a tant de violence dans nos États. Toute l'Afrique a chaque État dans l'Afrique a des violences. Les violences insensées quand on va quand il est temps d'aller aux élections, les élections deviennent problème. Or, c'est le moment où joyeusement les citoyens peuvent s'exprimer pour dire bon, j'avais fait un bon choix ou j'avais fait un choix qui n'était pas bon, je change maintenant. Malheureusement, les élections sont des sources de risques et de conflits et qui font que tout le monde a peur lorsque les élections approchent. On ne fait rien qui soit durable dans nos États. Nous allons faire des prêts pour construire des routes, pour construire des infrastructures, et quelques années après, tout cela tombe en désuétude, enfin en délabrement, et nous continuons de payer les dettes contractées. Donc, on amasse des dettes sur la tête de nos enfants, de nos petits-enfants. Donc, aujourd'hui, nous n'allons pas rester sur ce tableau-là, mais on va voir le principe de l'excellence. Puisque le dernier point que nous avons dit, c'est cultiver l'excellence. Ça veut dire, je l'ai déjà dit, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose d'inné en nous. Personne ne naît avec l'excellence. Personne ne naît avec le professionnalisme. On cultive. Même quand tu sors de l'école avec un diplôme, hein, bardé de meilleurs diplômes, tu n'es pas encore professionnel. Tu n'es pas encore excellent. C'est dans la vie que tu vas apprendre et cultiver à être excellent et à devenir professionnel. Donc, quels sont les principes qui soutiennent l'excellence? Quelles sont les caractéristiques de l'excellence? Nous avons cherché et décortiqué le principe de l'excellence sous trois angles. Le premier angle, c'est la modernité. D'ailleurs, très souvent, nous-mêmes, entre nous, quand nous voyons des gens agir, parce que la modernité, en fait, c'est en hébreu, c'est un coup de coco. Hein? Mm-hmm.
Nouveau regard pour une citoyenneté responsable.
Et quand nous voyons quelqu'un agir, on dit, ah, mais il y a un concours. Ouais. Il n'est pas, c'est-à-dire qu'il n'est pas, il n'est pas civilisé. Il n'est pas dans la modernité. Il est en retard. Il est en retard. Donc, pourquoi nous avons choisi la modernité au lieu de civilisation? Parce que la civilisation peut sembler statique, hein, quelque chose de pas dynamique. Mais la modernité est quelque chose de dynamique. Ça suppose que la société est en train de courir. Et que celui qui ne rattrape pas la course, celui qui n'est pas en tête de course, est en retard. Et donc, et c'est la société qui exprime et imprime la modernité, la civilisation à chaque moment. Donc, celui qui est toujours à la page de la civilisation, celui-là, on le qualifie de moderne. La deuxième caractéristique, c'est la compétitivité. Il ne peut y avoir de modernité sans compétitivité. Donc, il faut entrer dans la compétitivité. On va décortiquer ces trois principes tout à l'heure, ces trois caractéristiques. Il faut entrer dans la compétitivité et volontairement, et se positionner. Et la troisième caractéristique, c'est l'autosuffisance. Si l'autosuffisance, c'est atteindre un niveau où on peut compter sur ses forces, sur son intelligence, sur ses capacités à agir. Mais si on doit toujours se reposer sur les autres, l'autosuffisance ne dit pas agir en solo. Ça ne signifie pas être isolé et agir seul, mais être capable de soutenir son point de vue lorsqu'on a un point de vue et qu'on est convaincu, discuter avec les autres et soutenir son point de vue. Ne pas toujours chercher à s'en remettre aux autres. Donc, les trois principes-là, vous voyez que ce n'est pas seulement des principes pour les leaders, mais c'est pour tout le monde. Mais les meilleurs qui vont intégrer ces trois caractéristiques vont devenir les leaders. Donc, ça veut dire que il faut amener les enfants, il faut amener les jeunes, il faut amener tous les citoyens à entrer dans la recherche et la culture de ces principes d'excellence. Alors, la modernité, c'est quoi? La modernité dispose l'individu ou l'organisme ou l'État à l'acceptation du changement. Et c'est là où se trouve le problème. L'acceptation du changement. On rencontre souvent, chez la plupart des gens, l'envie de continuer à faire les choses aujourd'hui comme on les a fait hier, sans se rendre compte que le monde autour de soi, le monde autour de nous est en train de changer. On a tendance à vouloir reproduire les mêmes modèles d'hier aujourd'hui, sans nous rendre compte que les données ont changé autour de nous et qu'il faut changer de mentalité. Il faut accepter, non seulement accepter le changement, il faut se rendre compte et se dire, ah oui, les choses ont changé, le monde a changé, je dois aussi changer. Donc mes méthodes doivent changer, ma manière de penser doit changer. Et je vais rechercher comment mieux me connecter, me reconnecter à l'ensemble et à mon environnement. Parce que si l'environnement change et que moi je ne change pas, automatiquement je me déconnecte. Et si je me déconnecte, ça veut dire que les choses vont courir et je vais rester là, sur place. Donc, accepter le changement. Il s'agit de faire une distinction entre les méthodes et les forces traditionnelles qui freinent la dynamique de progrès, de croissance et celle qui la stimule. Méthode traditionnelle, c'est ce que je dis. Ah, on a toujours fait les choses comme ça ici. On reste sur la méthode traditionnelle. Or, les méthodes traditionnelles, peut-être, ont fait leur preuve hier. Mais aujourd'hui, il y a de la demande. Et il faut changer. Si on ne distingue pas les méthodes, une méthode peut, on peut dire, bon, on ne change pas une équipe qui gagne, n'est-ce pas? Mais attention, l'équipe qui a joué hier était bien en jambes. Si aujourd'hui, parce que l'équipe a gagné hier, et qu'on ne fait pas attention pour voir quels sont les changements, qu'est-ce qu'on a en face? Est-ce qu'on a besoin de gens qui courent plus vite? Ou des gens qui savent arrêter, stopper pour déstabiliser l'ennemi. Et qu'on utilise la méthode d'hier, on peut se trouver à court d'idées et échouer. Alors, il faut en fait oser le changement. Donc, savoir tous les jours que les choses peuvent changer, que la vie continue et que les choses ne sont pas aujourd'hui comme hier, que ça change. Donc, il faut prendre la décision d'oser le changement. Deux freins au changement. Il y a deux freins au changement. Le premier frein, c'est la résistance au changement. Il y a des gens qui ne veulent rien entendre de changer la façon de voir ou d'agir. Et souvent, on sort des adages qui sortent de leur contexte et on les applique. Par exemple, on nous dit souvent, et en politique surtout, on dit souvent, il vaut mieux pactiser avec le diable qu'on connaît plutôt que faire la compagnie de l'ange que l'on ne connaît pas. Mmh. On utilise souvent ça.
C'est fréquent en politique.
Très fréquent en politique. Et c'est les gens qui sont au pouvoir, dont les actions sont souvent décriées, qui en campagne utilisent ça. Bon, vous nous connaissez, vous dites que nous on est mauvais, mais ceux qui vont venir, est-ce qu'ils vont faire mieux que nous? Partager avec le diable qu'on connaît plutôt que de faire la compagnie de l'ange. Mais si tu n'essaies pas l'ange que tu ne connais pas, comment peux-tu savoir s'il est bon ou s'il n'est pas bon, s'il est meilleur ou s'il n'est pas meilleur? Voilà un adage que l'on utilise souvent, déplacé de son contexte, et qui fait que les gens disent, ah c'est vrai, il vaut mieux rester où on est, on ne va pas changer. Il y a encore l'autre où l'on dit, c'est à la suite de l'ancienne qu'on tisse la nouvelle. C'est vrai, c'est à la suite de l'ancienne qu'on tisse la nouvelle. Mais attention, il faut mettre les choses dans leur contexte. Dans quel contexte cet adage avait été dit? Et dans quel contexte il faut l'utiliser? Ce n'est pas un adage passe-partout. Si on l'utilise comme adage passe-partout, alors on ne mettra pas beaucoup de temps pour se rendre compte qu'on a résisté au changement. Que les choses ont changé autour de nous. Que le monde est parti loin et que nous sommes toujours au même endroit.
Ouais.
Donc ça, c'est le premier frein au changement. Ou disons, ce qui nous empêche de voir et d'oser le changement. On crie changement, changement, mais rien ne change. Les méthodes sont les mêmes. Le deuxième frein, c'est le repli sur la culture, la tradition qui tue l'innovation. Parce que le changement fait peur. Le changement, lorsqu'il y a changement, lorsqu'on parle de changement, personne ne sait quel est le résultat que ça va donner. Donc la peur du lendemain fait qu'on préfère aujourd'hui. Mais on oublie que aujourd'hui va passer et que indubitablement et irrésistiblement, demain va devenir aujourd'hui. Le jour suivant va venir. Il deviendra aujourd'hui. Mais si tu restes accroché à aujourd'hui que tu vis là, tu vas voir que demain va arriver et devenir aujourd'hui. Tu n'es pas préparé pour ça. C'est ça le repli culturel, le repli sur la culture et la tradition. Et c'est en Afrique qu'on entend le plus cette expression. C'est la tradition. C'est la culture. Alors, on est resté muré dans la culture et dans la tradition. Je ne dis pas que la culture est négative, mais la culture est quelque chose qui d'évolutif. Ça doit évoluer. La culture n'est pas quelque chose de statique. Et la tradition n'est pas quelque chose de statique. Il faut que la culture amène la tradition à changer. Hier, nous faisions les choses de telle manière, nos parents, nos grands-parents nous ont laissé ceci, mais il faut lire l'intelligence dans ce qu'ils faisaient et qui constituent la tradition, plutôt que de vouloir maintenir ce qu'ils ont fait et qui devient une tradition pour dire on ne change pas. En religion, on parle beaucoup de tradition et de culture. Et la religion nous amène à maintenir le statu quo. Toutes les religions confondues, hein, les religions sont difficilement progressistes. Or, nous avons vu dans le contexte, dans le concept d'État compétent, qu'il faut être progressiste. Mais si on reste muré tout le temps dans la tradition, dans la culture, on ne cherchera jamais à être progressiste. Donc, tu vois le lien entre les choses. Donc, la modernité nous amène à combattre deux choses. La peur du changement et le repli sur la culture et la tradition. Donc, voilà pour ce concept. J'ai mis beaucoup de temps là-dessus parce que les deux autres découlent en fait, la compétitivité et l'autosuffisance découlent de ce premier principe. Donc, le deuxième principe qui est la compétitivité, il est lié au concept de modernité. Je viens de le dire. C'est pourquoi j'ai mis le temps sur le premier principe. Le deuxième, la compétitivité, est liée à la modernité. Parce que la modernité, c'est admettre que les choses bougent, que les choses marchent, que ça change. D'ailleurs, ça me rappelle le spot publicitaire d'un des journaux de la place, je crois Golf Info, qui dit parce que les choses bougent, parce que les choses changent, parce que c'est vrai en plus. Les choses bougent, les choses changent, les choses avancent. Donc, pour rattraper le train en marche, pour entrer dans le train en marche, ou se maintenir dans le train en marche, c'est une question de compétitivité. Il faut être compétitif. Que ça veut dire compétitif? La compétitivité renvoie à la notion de proactivité, c'est-à-dire avoir une vision et dépasser, prévoir les choses qui ne sont pas encore. Donc, arriver à être proactif, à agir aujourd'hui comme si on connaissait déjà le résultat de demain. Donc, la proactivité où non seulement on est présent à chaque rendez-vous, parce que le monde est fait, la course est faite de rendez-vous, c'est comme le train qui va de gare en gare. Donc, si on sait que le train en marche, il quitte la gare A, il ne va plus s'arrêter à la gare A. Il va prochainement à la gare B. C'est ça le changement. Il va à la gare B, puis la gare C, etc. Maintenant, la compétitivité, c'est de se dire, bon, je prends le train et je ne veux pas que le train arrive à la gare B sans moi. Or, vous êtes nombreux à prendre le train. Si tu ne te bats pas, tu ne rentreras pas. Le train va quitter. Si tu traînes le pas, le train va quitter. Si tu dors trop, le train va partir. Donc, il faut rester éveillé, il faut être diligent et prendre le train au bon moment et à la bonne gare pour espérer être à la gare suivante. Donc, être au rendez-vous, mais non seulement être au rendez-vous, il faut même, non seulement être au rendez-vous du changement, mais provoquer également le changement. Ça veut dire que avant que le changement, donc le changement que l'on veut, on le provoque. Donc toi-même, tu peux provoquer le changement en posant des hypothèses valides aujourd'hui dans ce que tu fais. En se disant, Bon, si demain, par exemple, les choses changeaient de telle ou telle, telle manière, tu ne sais pas encore, mais tu poses des hypothèses. Et en fonction de ça, tu te prépares. Si bien que quand le changement arrivera, tu seras au rendez-vous comme un auteur du changement. Tu seras comme un auteur du changement. Donc, le changement ne va pas se faire sur ta tête, mais le changement se fera avec tes idées. Tes idées vont provoquer le changement. Tes idées vont construire le changement. Et tu seras au rendez-vous. Donc, ça, c'est la compétitivité. Et ceux qui sont proactifs et qui sont capables de provoquer le changement, c'est eux qui sont compétitifs. Si tu n'es pas capable, tu arriveras sur le marché un peu trop tard. Les autres auront déjà innové. Parce que la compétitivité t'amène à innover à cause de la proactivité. Les gens arriveraient, si tu arrives en retard, les gens arriveraient déjà au rendez-vous. Ils ont déjà mis leurs produits sur le... Et tu vas te dire, oh, j'arrive un peu tard. Ton produit est peut-être déjà suranné, dépassé. Parce que tu n'as pas su provoquer le changement. Tu n'as pas su être proactif, d'avancer les choses, anticiper. Donc, la proactivité, c'est l'anticipation. Anticiper les choses et être là virtuellement avant que l'événement ne se produise. Et quand l'événement se produit, tout le monde remarquera que oui, il l'a dit et il s'est préparé pour ça. Donc, tu es auteur de changement. Donc, c'est très important d'être compétitif. Donc, il y a l'anticipation, il y a la prise de responsabilité, il y a la recherche-action, et puis il y a la synergie. Parce que quand tu provoques le changement par la proactivité, tu es sur ces quatre points-là. Tu es sur ces quatre points. Et le dernier point qui est la synergie, c'est que tu es prêt à travailler avec tout ce que tu auras reconnu comme ayant quelque chose que tu n'as pas et que tu peux prendre chez eux. Tu seras là. Et tu arriveras à tu n'auras pas peur de la compétition. Tu es prêt avant la compétition. Et tu es prêt à voir qui a quelque chose de meilleur que tu peux prendre chez lui. Donc, voilà pour la compétitivité.
Nouveau regard pour une citoyenneté responsable.
La troisième caractéristique, le troisième principe de l'excellence, c'est l'autosuffisance. L'autosuffisance également est liée aux deux autres. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as toute l'attitude d'agir de façon autonome. Tu sais ce que tu veux, tu sais où tu veux aller. Et tu t'es préparé pour. Donc, tu as des arguments à soutenir. Et quand tu te rends, tu te retrouves au rendez-vous avec les autres, les autres ne vont pas t'imposer leur idée, mais tu vas faire valoir tes idées. Et tu vas confronter tes idées avec les idées des autres pour que l'étincelle de la meilleure idée jaillisse et tu seras prêt à prendre ce meilleur-là. Donc, l'autosuffisance permet donc de développer des aptitudes, les ressources et la confiance en soi afin de trouver des solutions adéquates aux problèmes auxquels on est confronté. Or, c'est ce qui manque le plus chez les Africains. Nos États ne sont pas autosuffisants. L'autosuffisance, ce n'est pas tout avoir. Souvent, quand nous parlons d'autosuffisance alimentaire, ça veut dire que tu n'as plus besoin de recevoir d'aide alimentaire, c'est vrai. C'est produire suffisamment pour soi. Mais il n'y a aucun État autosuffisant de ce point de vue-là dans le monde, où l'État a tout et n'a besoin de rien des autres. Ce n'est pas ça l'autosuffisance. Mais c'est que chaque État a besoin, sait qu'il a besoin des autres. Mais l'État autosuffisant, c'est au niveau de la pensée. C'est au niveau de la pensée que l'on construit l'autosuffisance. Donc, parce que le marché, le monde, c'est un grand marché. Tout le monde, et c'est sur ce marché que l'on juge de la compétence de chaque État. Un État est compétent lorsque cet État sait aller au marché et revenir avec de bonnes choses pour se booster, pour booster son économie, booster, régler ses problèmes sociaux, etc. Maintenant, si tu vas au marché, tu n'as rien à vendre, tu n'as pas d'idée, et que c'est sur le marché, c'est les autres qui vont dire, bon, nous on a ça, on peut te vendre ça, hein. Qu'est-ce que tu vas dire? Oui.
Oui.
Est-ce que c'est bon pour toi? Tu ne sais pas. Parce que tu n'as pas fait ton travail d'autosuffisance à la maison avant de te lever, avant d'aller au marché. Tu es allé au marché et rencontrer les autres. Et souvent, nous disons, il faut que les investisseurs viennent chez nous. Il faut qu'ils viennent investir dans le pays. Mais de quoi as-tu besoin réellement? Quand l'investisseur veut venir, c'est à toi de lui dicter tes conditions pour te dire, oui, j'ai besoin de toi, mais sous telle condition. Mais si tu n'es pas autosuffisant, c'est lui qui vient dicter les lois. Il vient prendre le meilleur chez toi. Regardez nos États, regardez le Togo. Depuis qu'on nous parle d'investisseurs étrangers, qu'est-ce qu'un investisseur est venu investir dans ce pays et laisser dans ce pays? Aucun investisseur ne laisse le meilleur dans le pays. Mais ils viennent prendre le meilleur et partir avec. Aucun. Parce que nous ne sommes pas autosuffisants. Mentalement, au niveau de la pensée, au niveau de la proactivité, de la compétition, de la compétitivité, au niveau de la modernité, nous sommes en retard. Et que nous laissons les autres venir nous dicter leurs conditions. Alors on court et on a vendu des sociétés d'État aux francs symboliques. C'est-à-dire qu'on a donné, on a bradé, on a donné à la personne. Prends. Et la personne prend. La personne ne prend pas pour te développer. Un investisseur ne vient pas développer un pays. Le pays compétent, l'État compétent, doit avoir les paramètres de son développement bien en poche, bien réfléchi. Et c'est ça le professionnalisme. Donc l'excellence, les trois principes de l'excellence emmènent forcément à devenir professionnel. Et le professionnalisme n'a d'autre signification que le savoir-faire. Le professionnalisme, c'est le savoir-faire. Mais avant le savoir-faire, il faut le savoir-être. Le savoir-être, c'est les trois principes: modernité, compétitivité, autosuffisance. Et lorsqu'on a les trois caractéristiques du savoir-être, alors forcément, le savoir-faire vient. Et on sait ce qu'on veut. On sait ce qu'on veut et on sait où on veut aller. Et on détermine sa course, on détermine sa propre vitesse, les paramètres de son propre besoin. Et on sait comment les exprimer. Et on ne va pas prendre n'importe quoi. Canal, excusez-moi, ce n'est pas une publicité, je ne fais même pas de publicité ni contre-publicité, mais nous avons des investisseurs qui sont venus investir chez nous et dans la communication. Qu'est-ce qu'ils ont apporté? Novela Star. Oh, Novela Star, c'est quoi? Est-ce que Novela Star développe un pays? Pas du tout. Novela Star, c'est la culture. On vient nous laver.